Il y a un acteur qui met tout le monde d'accord. Ton père, ta mère, tes potes, toute génération confondue. Ah, même si tu l'aimes pas, t'as grandi avec lui, parce qu'il est là depuis plus de 40 ans. On le voit partout. La promo de ses films, c'est toujours des grands événements. Au cinéma, on le voit sur des toits, suspendu à des falaises, dans des avions, sur des avions. On raconte même qu'il pourrait aller dans l'espace. Beau gosse pour les uns, monstre d'acting pour les autres. Pour beaucoup, ce serait même le dernier vrai héros du cinéma. Il est immensément riche et ses 620 millions de dollars de fortune lui permettent quasiment tout. On dit qu'il arrive à faire grimper les rangs de l'armée américaine à plus de 500%. Ou qu'il permet à une marque de vendre plus de 3 millions de paires de lunettes juste parce qu'il les a portées dans un film. Ah non, mais c'est peut-être même plus un acteur à ce niveau-là. Quand on le voit se surpasser pour le cinéma, on en vient à se demander, mais jusqu'où va-t-il aller? Mais quand on prononce son nom, bah il y a toujours un mot qui suit. La Scientologie. Ce mec est l'ambassadeur mondial d'une des sectes les plus mystérieuses dont on ne sait quasiment rien. Ah, et c'est pas une gentille secte. On parle d'un processus hyper malsain de recrutement de femmes, d'arnaque à plusieurs millions de dollars, de dieux, de vie éternelle. À un moment donné de sa carrière, ce gars-là s'est mis Hollywood à dos, puis a réussi à faire tout oublier. Comme par magie. Et il a même rencontré le président de la République française pour faire la promotion de sa secte, et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais bordel, qu'est-ce qui se cache derrière Tom Cruise? Le gars est à la tête d'une secte, les dérives dans sa vie privée sont très connues et pourtant, on ferme les yeux depuis des années. Alors cette vidéo, je te le dis, c'est pas un top 10 de ses meilleures cascades, non ça on s'en fout. Puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser à des choses qu'on nous cache depuis bien trop longtemps. Il y aura plein d'histoires mystiques tout au long de cette vidéo. Comme par exemple le jour où Tom Cruise a laissé sous-entendre qu'il pouvait ressusciter un mort. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Alors il y a une histoire que peu de gens savent. En 1996, pour l'avant-première de Mission Impossible à Paris, Tom Cruise veut pouvoir atterrir en hélicoptère sur le toit du cinéma des Champs-Élysées. Mais on lui refuse. Alors pourquoi? Ah bah tout simplement parce qu'il est hautement menacé de mort à ce moment-là. Oui, le grand acteur chéri du public et des studios, bah quelqu'un lui en veut. Mais vous savez quoi? Bah cette histoire, c'est pas moi qui vais vous la raconter. C'est mon père. Puisqu'en 1996, mon père est chauffeur de maître. En gros, bah c'est comme un Uber, mais pour les célébrités. Alors à cette époque-là, il avait déjà énormément de métiers, mais rien ne l'avait préparé pour ce qui arrive.
Votre mission, si vous l'acceptez, vous occupez de l'avant-première du film Mission Impossible 1, avant-première à Paris, avec Tom Cruise. Donc nous voilà partis pour les Champs-Élysées, l'avant-première du film. Arrivé devant les Champs, évidemment, un monde de dingue. Tom Cruise sort du véhicule, il n'était pas dans ma voiture, hein, je précise. Les gardes du corps l'entourent, ils le baissent, ils le mettent quasiment par terre, et voilà, il cavale, il rentre dans le cinéma. Il va sur scène, présente le film, les lumières s'éteignent, il ressort. Hop, chemin inverse pour aller aux voitures. Le cortège part, on quitte le cinéma. Le film dure 2 heures et on avait hâte de partir avec l'acteur qui ne restait pas durant la projection du film et on part tous dans des directions différentes pour faire diversion.
Le film se passe, mais pour toute l'équipe de sécurité, la tension est super palpable.
Qui dit menace de mort dit sécurité armée. Et effectivement, tu te retrouves au milieu de tout ça, au volant. On avait tous des oreillettes, bien évidemment. La sécurité armée, gilet pare-balles, oreillettes, lunettes de soleil. Quand il y a 2 personnes, ok. Mais quand t'as 10 gardes du corps, ça change la donne, quoi.
Puis 15 minutes avant la fin de la projection, rebelote. Le cortège de sécurité revient chercher Tom Cruise à son hôtel, puis l'amène de nouveau au cinéma. Et malgré l'immense pression qu'il y a sur ses épaules, hein, bah Tom Cruise il va rester souriant toute la soirée. Personne n'a jamais su qu'il était menacé de mort, jusqu'à maintenant. Ah non, mais il y a prescription maintenant les gars, ça fait 30 ans pile, j'attendais 2026 pour parler de cette anecdote. Et cette histoire pour moi, elle résume parfaitement qui est Tom Cruise. Alors que sa vie est menacée, il reste souriant, il fait semblant et il continue à garder la face pour faire la promotion de son film. C'est ça Tom Cruise. Mais d'où il vient ce gars en fait? Bon, c'est bien beau, mais depuis le début de la vidéo, on parle que des films que Tom Cruise a acceptés. Mais il en a refusé quelques-uns, et notamment un des films qui est peut-être devenu le plus grand film de tous les temps. Les Évadés. Vous l'avez vu? Trop bien. Moi, sinon, si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est un banger. Mais est-ce que vous savez qui a écrit le bouquin dont est tiré le film? Bon, je vous le dis, c'est mon auteur préféré, et je sais que je suis pas le seul. Et c'est un écrivain qui, sans le vouloir, a énormément contribué pour le cinéma. Il est super prolifique depuis le début de sa carrière, il a écrit plus de 60 romans, tous des best-sellers, plus de 200 nouvelles, ah oui, et parmi tout ça, plus de 60 adaptations au cinéma. Et vous les connaissez très bien, Shining, ça, La Ligne Verte et plein d'autres. Ouais, Stephen King, en termes de thriller, d'horreur et de suspense, il connaît son domaine. Alors aujourd'hui, je suis trop content de vous parler de son nouveau livre. Et oui, encore un, Ne Jamais Trembler, mais ouais, c'est le titre du bouquin. Et au moment où cette vidéo sort, il est disponible. Et ça promet d'être encore du très grand Stephen King. Alors ça parle de quoi? T'inquiète pas, je vais te le dire tout de suite. On suit un tueur, mais aussi un deuxième gars très bizarre. Le tout dans 2 histoires qui vont se mêler, avec 14 personnes menacées, une course contre la montre et le retour de Holly Gibney, l'enquêtrice phare de Stephen King. Ah, si t'as lu ses bouquins, tu sais que la meuf, elle pèse dans le game. Et cette fois-ci, elle est engagée comme garde du corps. Vous savez ce qui m'a trop fait kiffer en lisant le livre? Ne Jamais Trembler, c'est actuel. C'est moderne, on parle d'une Amérique telle qu'on la voit dans les médias. Et dans une histoire de zinzin à la sauce de Stephen King. Ah non, parce que je l'ai dévoré le bouquin. Et oui, j'ai eu la chance de le lire avant vous, en avant-première. Et bah, c'est encore un banger.
Bravo Monsieur King. Et c'est pour ça que je suis trop content de cette OP. Ne jamais trembler, c'est passé numéro 1 des ventes aux États-Unis dès sa sortie. Et je parie ma chaîne YouTube que ça va faire exactement le même score chez nous. Et comme on est déjà dans le futur en 2026, et ben aujourd'hui on peut aussi écouter les livres. Ne jamais trembler, c'est aussi dispo en audiobook, donc si t'aimes pas forcément lire et que t'as envie de découvrir l'histoire autrement, bah c'est carrément possible. Ça s'écoute partout, dans ton lit, à la salle de sport, dans les transports, dans la voiture. Bon, c'est quand même du Stephen King, donc tu vas frissonner, mais quel kiff. Et en parlant de frisson, il faut qu'on reparle de Tom Cruise, parce que je crois que vous êtes pas prêts pour la suite de la vidéo là. Toc toc toc, qui c'est ? Eh ben c'est la gloire mon pote. Chez Tom Cruise, tout donne l'impression que c'est facile, et ça a le don de m'énerver d'ailleurs. Une fois lancé dans le cinéma, il enchaîne les bonnes rencontres, les premiers rôles, et très vite, le succès. Mais c'était tellement pas gagné. Ah non mais c'est à se demander comment un gars si mal parti a réussi à terminer aussi haut. Hein. Thomas Cruise Mapother, quatrième du nom, ou enfin Tom Cruise quoi, enfin c'est plus pratique en plus puis tout le monde connaît donc on va partir sur Tom Cruise. Et bah Tom Cruise, il va pas avoir une enfance très très joyeuse. Non non, c'est pas le mot que j'utiliserais. Père absent ou très peu présent selon les récits, une mère qui va difficilement s'occuper de lui, et ses trois sœurs. Bah on parle de maltraitance et de plusieurs déménagements. Cette situation familiale, son enfance compliquée, en fait je pense que c'est la clé de voûte de sa vie. Une fois que tu sais que le gars en a chié comme ça, bah en fait tout fait sens dans la suite de notre histoire. Et sa relation à la paternité, bah il va même la traîner avec lui toute sa vie. Mais ça on va le comprendre plus tard. D'abord, bah il doit aller à l'école. Et pour Tom Cruise, bah c'est loin d'être une tannée. Parce qu'en fait au début il y va en pensant y trouver quelques heures de refuge loin du foyer familial. Enfin du moins ça c'est ce qu'il croyait. Ah non parce que quand t'es le plus petit de la cour de récré, bah c'est souvent toi qu'on va prendre pour cible. Et quand je dis petit, bah Tom Cruise il était quand même vraiment petit. Quoi. Il en parlera plus tard, mais en fait, à cause de sa taille, il va carrément devenir la grosse victime de la cour de récré. Hein, tout le monde va se foutre de sa gueule. Ouais, ce mec-là, c'était la victime. Ah, on avait pas les mêmes victimes dans nos collèges, hein, parce que moi, si lui, il avait été dans ma classe, il serait sorti avec ma meuf, hein, je te le dis. Au vu qu'il se faisait un petit peu harceler, Tom Cruise, il va commencer à se mettre au sport, et plus précisément à la lutte. Ouais, c'est bien ça, puis en plus, il va pouvoir se dépenser, ça va lui vider la tête, c'est cool. Ah, et puis Tom, il se débrouille très bien, il est vraiment bon. Jusqu'à une blessure au genou, quoi. Ah, il s'est fait les croisés, non mais pour le coup, c'est pas une vanne, c'est vraiment ligament croisé, quoi. Vous voyez les clichés des lycées américains avec les mecs cool qui font du sport et les bolos qui font des cours de théâtre ? Et bah, Tom, ça lui passe complètement au-dessus, il s'en fout. Et vu qu'il est obligé d'arrêter la lutte, bah, du coup, il va se tourner vers le théâtre et les comédies musicales de son club de lycée. Et là, mais c'est le kiff absolu. Sur les planches, il se sent à sa place. Avec le théâtre, il oublie ses problèmes de famille, sa blessure, son harcèlement à l'école, et forcément, petit à petit, le théâtre, ça va éveiller en lui des envies de cinéma. À 14 ans, quand les parents de Tom Cruise divorcent, bah lui, il est adolescent. Il est complètement perdu dans sa vie, il y a rien qui va. Et quitte à tout plaquer, autant que ce soit pour aller dans une école un peu spéciale. Tom intègre la St. Francis Seminary School de Cincinnati. En gros, c'est un séminaire. Ah parce que oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est que avant d'être acteur, Tom Cruise lui, bah il voulait être prêtre. Ah non, mais moi j'ai très très envie de voir ça. Imagine s'il était prêtre mais de nos jours. Le père Tom, un prêtre quasiment gourou qui s'accroche à des avions et qui prêche la bonne parole partout pour sa paroisse. Attends. Bon ben Tom il va pas faire long feu au séminaire avec les prêtres. En fait il s'est fait virer parce qu'il allait picoler le vin de messe en cachette. Mais il sort tout de même avec une certitude. Dans sa vie il aura toujours deux choses pour l'accompagner. Le cinéma et Dieu. À 18 ans il déménage à New York et il veut tenter sa chance. Et là c'est l'heure tant redoutée des premiers castings. Attends j'ai dit redoutée ? Non mais je suis un ouf. Ah on parle de Tom Cruise quand même là. Quand il quitte le domicile familial avec ses économies en poche, il va très vite trouver ce qu'il cherche. Ah non mais genre très très vite. I lit a whole pile of newspapers. You ever try to light a whole pile of wet newspapers? Jeez, it smokes like crazy. Coming over to game with us tomorrow night, which means no kids allowed. Check this out, buddy. Ah! It's beautiful, man. Beautiful. En à peine 4 ans, de 1981 à 1985, Tom Cruise réussit à taper dans l'œil de certains réalisateurs. De simples figurants, il obtient des rôles plus conséquents, juste parce qu'il passait bien à la caméra. Alors il passe de statut de quasi-inconnu à premier rôle chez Zeffirelli, Chapman, Coppola, Ridley Scott. Ah non, mais faut dire qu'il avait une sacrée belle gueule aussi, hein. Le gars est fait pour être filmé par une caméra, quoi. Enfin, y a pas à chier, il est magnifique. Surtout que tout à coup, au milieu des années 80, Tom Cruise, il va emprunter un chemin totalement inattendu. En partie, grâce à deux frères. Vous savez quel film a été un tournant dans la carrière de Tom Cruise ? Bah, c'est Legend de Ridley Scott. Sur le tournage, Tom Cruise, il est comme un ouf. Il est en train de jouer dans un film de Ridley Scott. On parle du gars qui a réalisé Alien, quand même. Bon, et Legend, honnêtement, c'est clairement pas le meilleur film de Ridley Scott, et encore moins le meilleur film de Tom Cruise. Mais on le pardonne. Alors, Tom Cruise, habillé en elfe magicien, bah, c'est pas ça qui va changer sa carrière, hein, tu t'en doutes. Alors là, vous comprenez pas où je veux en venir, alors. Entre les prises, sur le tournage de Legend, Ridley Scott, il est souvent au téléphone avec son frère, Tony. Et Tony, comme Ridley, bah, il est aussi réalisateur de films. Mais il y a un truc qui va pas, Tony, il est un peu tracassé, là, il est pas dans son assiette. Parce qu'en fait, Tony, il est en train de faire un film à ce même moment, mais il arrive pas du tout à trouver un acteur principal, c'est une galère sans nom, y a rien qui lui convient. Et vu que sur le tournage de Legend, Tom Cruise n'arrête pas de coller Ridley Scott, et bah il va en profiter.
Tiens, Tom, viens voir s'il te plaît. Ouais, plus vite, merci. Alors, tu connais mon frère Tony? Ouais, bah, cool. Et bah tu vois, en ce moment, il est en train de réaliser un film sur les marines américaines. Ce serait cool que vous en parliez tous les deux comme ça, vite fait.
Bon, Tom Cruise, il est pas complètement con, hein. Il se dit que s'il y a 20 autres comédiens comme lui qui ont pas aimé le scénario avant, bah ça va pas lui plaire non plus, quoi. Mais Ridley Scott lui a dit que ça allait être un super film. Alors il se laisse tenter. Surtout pour essayer de le convaincre, on lui fait tester un véritable vol dans un avion de chasse, histoire de voir ce que ça donne en vrai. Et ça, Tom Cruise, il a grave kiffé. Bon, apparemment, il a eu un peu la gerbe, mais il a grave kiffé. Résultat, tout ça, bah ça nous donne Top Gun, réalisé par Tony Scott, avec Tom Cruise dans le rôle de Pete Mitchell, alias Maverick. Alors merci Ridley Scott. Et à la sortie du film en 1986, Tom Cruise devient une star planétaire. Le film est pas incroyable, mais ça cartonne. Alors pour vous dire, le film a coûté 15 millions de dollars à la production et en a rapporté 350 millions. Et tout le monde trouve Tom Cruise trop stylé dans son avion de chasse. Le film marche sur les mecs, le film marche sur les meufs, tout le monde veut lui ressembler ou tout le monde veut le pécho. Et vous voyez dans le film, Maverick, il porte des lunettes. Bah ces lunettes, c'est des Ray-Ban. Et dans les années 80, Ray-Ban, c'était une marque hyper ringarde, quasiment en faillite, plus personne en portait. Et bah dès la sortie du film, tout le monde est allé acheter les mêmes lunettes que Tom Cruise. Résultat, plus de 40% de ventes pour Ray-Ban et une longévité qui dure jusqu'à aujourd'hui. Top Gun, c'est LE film qui l'a fait passer dans la sphère supérieure. Mais le film a toujours été entouré d'un paquet de légendes urbaines. Comme quand on dit que grâce à Top Gun, l'armée américaine a vu ses recrutements bondir de 500%. Alors, il y a eu un vrai effet Top Gun, ça on le sait, c'est sûr, mais c'était pas autant. On parle plutôt de 8% à cette époque, et 8% grâce à un film. Mais c'est déjà énorme. Alors pourquoi est-ce qu'on se tue à dire que c'était plus de 500% de recrutement, même 40 piges après? Et bah ça, c'est l'effet Tom Cruise. C'est trop beau, la légende est magnifique, donc on peut pas y toucher. Bon, si on s'attarde un peu sur Top Gun, déjà c'est parce que c'est l'un des films les plus connus du mec. À sa sortie, le film a tellement bien marché qu'on lui a même proposé de signer pour une suite directement, mais lui il voulait pas. Il avait des envies d'ailleurs. Et là on rentre dans ma partie préférée de sa carrière. Après Top Gun, c'est durant la décennie suivante que personnellement il me touche le plus. Et il va même venir confirmer ma théorie. La théorie Top Gun. Alors je m'explique. Quelques mois après Top Gun sort The Color of Money de Martin Scorsese. Durant l'année 86, on pouvait donc voir Tom Cruise jouer dans deux films qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Comme si le gars arrivait pas à choisir ce qu'il aime. Et cette malédiction, bah, elle va un peu le suivre toute sa vie. En 1988, il joue de nouveau dans un film commercial, Cocktail, pour finir l'année dans Rain Man, aux côtés de Dustin Hoffman. Alors pourquoi c'est important ? Pour Cocktail, il va recevoir un Razzie Award du pire acteur de l'année. En même temps, le film est à chier, donc bon. Mais de l'autre côté, Rain Man, dans lequel il tient un rôle principal, gagne 4 Oscars, dont celui du meilleur scénario et celui du meilleur film.
How'd you do that?
I don't know. You memorize the whole book?
No.
You start from the beginning?
Yeah.
How far did you get?
G.
G?
G, God's sake, William Marsh, God's sake.
You memorized G?
Yeah, G.
A, B, C, D, E, F, G?
G, half a G.
That's good, Ray.
Yeah.
I like that.
Yeah.
Après Top Gun, toute la carrière de Tom Cruise ne sera qu'une succession de périodes où l'acteur va picorer à droite à gauche, multipliant les genres, il marche à l'instinct et il dit oui à un film quand il y croit. Et durant les 15 années qui vont suivre, c'est la révélation. Tom Cruise va enfin montrer au monde de quoi il est capable.
Thank you for playing. Should we or should we not follow the advice of the galactically stupid?
That's insane!
I have thought of every possible way. Here in the Caymans, in Washington, that's all I've done. You don't know what it's like to be me out here for you. It is an up at dawn, pride swallowing sea.
In any case, I need your written authorization so I can release your bills, like every other client is given.
Did you order the code red?
You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth!
Dans Vanilla Sky ou Born a 4th of July, il nous émeut. On frissonne dans Interview with a Vampire, on l'aime dans Days of Thunder avec Nicole Kidman, puis il joue dans Far and Away, à nouveau avec Nicole Kidman. Et en 1999, Tom Cruise signe ses deux meilleures performances ever. Il va jouer dans le dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, toujours aux côtés de Nicole Kidman. Puis dans Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Et c'est bien simple, c'est mon film préféré avec Tom Cruise. Et c'est son rôle le plus bizarre, hein.
Respect the cock.
Gilet en cuir, conférencier, mal alpha, 25 ans avant que ce soit à la mode, cheveux longs, il joue le rôle d'un macho complet. Mais il y a surtout une scène qui le propulse dans mon classement de ses meilleures performances. Et là on va spoiler un peu le film. Quand le père du personnage de Tom Cruise meurt, il se rend à son chevet. Et devant son père mourant, le fils décide de dire tout ce qu'il a sur le cœur depuis tant d'années.
God damn you fucking asshole. Oh, God, you fucking asshole. Don't go away, you fucking asshole. Don't go away, you fucking asshole.
Évidemment, tout ça, c'est improvisé. Mais c'est comme s'il avait pas eu à aller chercher très très loin. C'est « je te déteste » envers une figure paternelle, ils sortent quand même très facilement, je trouve. Et on dirait que grâce à cette scène, Tom Cruise vient de régler ses comptes avec son propre père, décédé 10 ans plus tôt. Cette scène, j'ai découverte quand j'ai regardé Magnolia, j'avais 17 ans et j'étais complètement choqué par sa performance. C'est une des premières fois où je me disais « ah, Tom Cruise est quand même pas si mauvais ». Bon, c'est pas facile de résumer 15 ans de carrière d'un acteur, surtout quand il est aussi prolifique. Et alors en plus, entre deux chefs-d'œuvre, y a eu ça. Dans les années 90, le cinéma américain est en train de prendre un énorme tournant. Les années 80, c'était l'avènement de Stallone, de Schwarzenegger, de Bruce Willis, L'Arme Fatale, Rambo, Die Hard, des muscles, des punchlines, des explosions dans tous les sens. Mais ça s'épuise. Alors on regarde ce qui se fait ailleurs. James Bond est en train de doucement perdre en intérêt, mais le genre d'espionnage mériterait bien un peu de sang neuf. Alors pourquoi pas lancer une nouvelle franchise d'espionnage? Ou plutôt relancer une franchise. Ça, c'est ce que se disent les studios en discutant avec Tom Cruise. Ah oui, non, parce que j'ai oublié de vous dire, mais maintenant Tom Cruise, il coproduit tous les films dans lesquels il joue. Mais comment il en est arrivé là? Parce que 15 ans seulement après son début de carrière, hein, Tom Cruise est pété d'oseille. Ah, ça déborde. Il a même dit qu'il pouvait plus mettre les mains dans ses poches parce qu'il y avait trop de billets. Un de ses premiers salaires, c'est $75,000 pour Risky Business en 1983. Et à partir de Legend, ça va plus jamais redescendre. $500,000 avec Ridley Scott, 2 millions avec Top Gun, 3 millions pour Cocktail, 9 millions pour Days of Thunder, $13 millions pour Far and Away, $12 millions pour A Few Good Men, $12 millions pour The Firm, et $15 millions pour Interview with the Vampire. Ah ouais, mais plus de $65 millions, voilà. Alors en 1992, il fonde la société Cruise Wagner Productions avec Paula Wagner, sa manageuse. Et ça, ça change tout. Une fois producteur, il choisit les réalisateurs, il impose le lieu des tournages, les décors. En gros, il décide d'où va l'argent. Bon, c'est peut-être parce que c'est le sien, l'argent. Et avec cette société de production, il signera un contrat avec Paramount, le studio de cinéma avec une montagne. Ce contrat, c'est une mine d'or pour Tom Cruise et Paula Wagner. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce contrat va rendre Tom Cruise et Paula Wagner immensément riche. Ah, parce que $65 millions de fortune, là, à ce niveau-là, c'est du pourboire. Non, je vous parle d'énormément d'argent. Ah, mais par contre, tout ça, ça va pas être éternel, oulala, non. Il suffira d'une seule émission en prime time devant des millions de téléspectateurs pour que Tom Cruise se ridiculise et perde la confiance de Paramount. Et alors ça, c'est peut-être mon histoire préférée de la vidéo, hein. C'est complètement lunaire. Je vais te raconter tout de suite. Mais juste avant, on a atteint les 100 000 abonnés. Waouh! Merci infiniment, c'est complètement dingue. Et en plus, ça me motive encore plus à envoyer des vidéos de mieux en mieux. J'adore ce que je fais, voilà, j'adore, merci. Alors 100 000 c'est bien, mais on va pas s'arrêter là quand même. On a besoin d'aller encore plus haut, comme Tom Cruise dans les années 90. Alors si vous aimez cette vidéo, déjà vous mettez un petit like. Ensuite, vous vous abonnez, parce que même si j'ai 100 000 abonnés, il y a quand même 85% des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. C'est pas très sympathique. Et si vous me kiffez moi et mes vidéos encore plus, vous savez ce que vous allez faire, vous allez booster la vidéo. Alors attention, ça marche que sur téléphone, c'est très rapide, tu swipes sur la section commentaires, ici il y a écrit booster, t'appuies, et puis là, tu boostes. Bon, moi j'ai utilisé Tomé Boost sur mes propres vidéos, donc j'en ai plus, mais t'as compris l'idée. Et si tu veux me voir encore plus sur ton téléphone, et je t'invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok, parce que je fais des super vidéos où je te parle de couture. Je te parle de cinéma, et tous les jours en plus. Et si c'est plutôt discuter qui vous intéresse, rejoignez-nous sur le Discord. Déjà c'est trop cool parce qu'il y a que des passionnés de cinéma, c'est très bienveillant, et en plus je réponds aux messages privés. Donc si tu veux me parler, rejoins le Discord. Ah oui, et autre chose hyper importante, la prochaine vidéo sera une FAQ. Ouais, on est en 2014 là, c'est pas une vidéo de Cyprien, mais t'as compris l'idée. Posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit sur mon travail sur YouTube, sur ma vie privée, sur je ne sais quoi, ce qui vous fait plaisir, et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Tout est dans la description, hein, et maintenant j'arrête de parler de moi, je suis désolé pour ça, on revient à Tom Cruise, parce que là il s'est quand même passé une grosse dinguerie qu'il faut que je vous raconte. En 1996, Tom Cruise et Paramount décident de racheter les droits d'une vieille série d'espionnage. Ah, il vous a ému dans des films d'auteur? Regardez ce qu'il sait faire dans les films les plus physiques jamais réalisés. Cette série, c'est Mission Impossible. En putain d'amoureux du cinéma, il a fait une promesse au public. S'il risque sa vie en tant qu'acteur, vous allez vibrer en tant que spectateur. Ah, mais lui va se faire des couilles en or avec ce deal. Grâce à son travail de producteur, Tom Cruise va gagner $70 millions sur le premier Mission Impossible. Et puis $75 millions sur le second volet, et ainsi de suite, quoi, tout au long de la franchise. Avec cette logique, il domine le cinéma américain dans les années 2000 et 2010, jusqu'à devenir l'acteur le mieux payé de tous les temps. Putain, même avec ça, le gars peut pas s'empêcher de jouer un rôle qui a rien à voir. Ah, il a toujours pas perdu son syndrome Top Gun, hein. Parce qu'en 2008, Tom Cruise, il ressemble à ça. Hein, c'est le BG absolu. Mais en 2008, Tom Cruise, c'est aussi ça.
This is the last horseman, who is this?
This is Flaming Dragon!
Oh, okay, Flaming Dragon. Fuckface. First, take a big step back and literally fuck your own face!
Le mec est méconnaissable, hein, dans Tropic Thunder, et en plus, il est drôle. Bon, malgré ses sorties de route oubliables... Bah, il garde quand même son cap. Tom Cruise et les cascades, ils sont comme ça, hein. Tout le monde sait que ça va te perdre. Et c'est aussi parce que c'est devenu le premier argument marketing de chacun de ces foutus films. Surtout les Missions Impossibles. On sait qu'il utilise au minimum les effets spéciaux pour les cascades. On sait qu'il apprend à piloter des hélicos. On sait qu'il a son propre jet et qu'il le pilote lui-même. On sait qu'il saute 100 fois en parachute pour préparer une scène. On sait qu'il saute avec un parachute en feu 16 fois de suite. On sait qu'il s'accroche à des avions dans les airs sans câble. Et on sait aussi qu'il s'est cassé la cheville dans un saut. On le sait, c'est un trompe-la-mort prêt à tout juste pour que vous puissiez vibrer dans votre fauteuil au cinéma. Mais ça c'est chiant! C'est même plus de l'anecdote de tournage un peu sympa qu'on apprend en soirée. Mission Impossible Dead Reckoning est sorti en 2023, un an avant on était déjà spoilé de la meilleure scène d'action du film. On avait déjà une vidéo YouTube qui a fait des millions de vues, tout le monde en parle, et on avait des interviews du réalisateur et de Tom Cruise pour nous parler de cette scène. Donc forcément quand tu prends ta place un an plus tard, bah c'est juste pour aller voir ce que ça donne dans le film. Donc les cascades et Tom Cruise on va plus en parler, ça m'a gavé, c'est bon. Respire. Le seul truc dont on peut parler, c'est qu'il court dans chacun de ses films. Ça, c'est drôle. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur une compilation de 18 minutes avec toutes les fois où le gars court dans ses films. En fait, il fait ça depuis le début, quoi. À un moment donné, c'était une évidence. Tom Cruise n'est plus un acteur de cinéma, c'est LE cinéma. Surtout qu'en 2022, il va revenir sur une décision prise 35 ans en arrière. Il retourne dans les airs. Lui qui avait refusé de faire une suite à Top Gun reprend du service, mais à la sauce Tom Cruise. Top Gun Maverick, c'est son film. Il le produit, il l'incarne. C'est tellement son film que je suis persuadé qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui sait qui est le réalisateur. Bon, je vous pose la question, alors vous trichez pas, hein, écrivez-moi son nom dans les commentaires. Mais le film est en projet en pleine période de Covid, alors les studios hésitent. Le virus est encore présent, est-ce qu'on va pousser les gens à aller au cinéma? Est-ce qu'on peut pas le sortir en streaming? Et vous commencez à connaître votre gars. Tom Cruise refuse catégoriquement. Lui, il veut une projection en salle de cinéma et pas autre chose.
Top Gun Maverick is breaking record. At the box office.
Top Gun Maverick swept the US box office once again.
1,5 milliard de dollars de recettes plus tard, le monde entier salue la décision de Tom Cruise. Pour toute l'industrie, la sortie de Top Gun Maverick, ça a été la preuve que faire un film et le projeter au cinéma, c'était encore possible dans le monde post-Covid. Et comme si c'était nécessaire, on va serrer la main de Tom Cruise en lui disant « Bravo mec, t'as sauvé le cul du cinéma là ». Vous savez de quelle est cette phrase ? De Steven Spielberg. Alors en théorie, quand t'as l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps qui te félicite publiquement, c'est pas rien. Mais là, cette phrase, elle a une saveur particulière. Et ça, Tom Cruise, il le sait, tout Hollywood le sait même. Parce que ce moment-là, la réaction des gens, ça a été... Attends, mais ils se reparlent les deux, là ? Parce que les bravos de Spielberg à Tom Cruise, ils font écho à une grosse embrouille que les deux avaient depuis 15 ans. Alors c'est pas très clair, mais c'est une histoire de bouquins, d'invasion extraterrestre, de canapé. À un moment, il y a Nicolas Sarkozy. Ah oui, ça parle de Dieu aussi. Vous connaissez Lafayette Ronald Hubbard ? Non ? Bah c'est normal, parce qu'au début de sa vie, c'est un nobody. D'abord écrivain de science-fiction raté, en 1950, il est comme touché par la grâce. Il publie un livre. Le livre. La Dianétique. Bon, je vous la fais courte. La promesse du bouquin, c'est « Si tu suis tout ce qui est écrit, tu vas devenir invincible. Tu vas te libérer des contraintes de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps. Et tu seras même capable de devenir... un dieu. Et ça marche. Mais Hubbard, il a des ambitions un peu plus grandes que de seulement être le livre le plus vendu de 1950. Non, lui, il veut créer un mouvement. Alors il élabore son plan. D'abord, les fidèles vont suivre une thérapie à plusieurs milliers de dollars et après, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent avec l'énergie, la matière, l'espace, le temps, je sais pas quoi. Ah oui, non, parce qu'avant d'être un excellent gourou, Hubbard, bah, c'est surtout un très bon businessman. Hein. Alors, pour faire parler de son projet, en 1955, il lance le Project Celebrity. En gros, il veut convaincre des stars à rejoindre ses rangs. Alors, il va se rapprocher des restats de l'époque, hein, ces gars-là, mais ça marche pas du tout. Mais bon, ça n'empêche que le culte de Hubbard va quand même jusqu'à ouvrir des centres en plein Los Angeles avec l'argent des adeptes. Pourquoi Los Angeles ? Il met en place des programmes dédiés aux acteurs, aux réalisateurs, aux producteurs, et parmi eux, il y a même Philip C. Spiekeler, le père de Mimi Rogers. Bah, Mimi Rogers, vous voyez pas qui c'est ? Ah, mais c'est la première femme de Tom Cruise. Quand ils se rencontrent, tout va très vite entre les deux acteurs. Et après moins de 2 ans de relation, ils se marient, le 9 mai 1987. Vas-y, mais je m'en fous de la date, pourquoi il me donne la date, lui ? Mais attends, arrêtez, tu vas comprendre. C'est le 9 mai que Ron Hubbard a sorti son livre La Dianétique et fondé son culte, la Scientologie. Bah oui, vous pensez vraiment qu'on allait faire une vidéo sur Tom Cruise sans parler de la Scientologie ? C'est même la partie la plus intéressante de la vidéo, tout ce que j'ai dit plus haut est fait pour nous amener à ce moment précis. Le gars est l'ambassadeur d'une des plus grandes sectes du monde, il y a tellement de choses à dire que vous savez pas en plus. Tom Cruise, c'était le candidat parfait. La religion, c'était sa voie avant de devenir acteur. Et en entrant dans la scientologie, on lui fait l'offre de sa vie. Tu peux faire du cinéma et devenir un haut membre de notre culte. Et pour le moment, personne le sait. Dans les scientologues, ils aiment bien faire leurs affaires tranquilles. Ah, pas pour longtemps, hein. Parce qu'au début des années 90, Time Magazine sort une enquête. Et le grand public découvre pour la première fois ce nom, jamais trop entendu auparavant. Le monde tombe des nues. Le journaliste Richard Beard dévoile tout de cette secte qui croit au surnaturel basé sur l'intimidation, l'argent et la manipulation. Et comble de la surprise, Tom Cruise, le beau gosse qu'on voit au cinéma, en fait partie. On dit même qu'il est déjà très haut placé dans l'organisation. Ah et puis tant pis, hein, oui voilà, il est scientologue. Alors autant en parler librement. Peut-être même un peu trop librement d'ailleurs.
Pour terminer, un Américain à Paris, Tom Cruise, le beau gosse, est venu présenter Collateral, son dernier film. Pascal Deschamps, Mathieu Drejoux.
Quand il passe par Paris en 2004, Tom Cruise rencontre Nicolas Sarkozy, qui à cette époque est ministre de l'économie. C'est complètement lunaire. L'échange fait la une des journaux et ça déclenche une polémique. Personne ne comprend pourquoi Nicolas Sarkozy a rencontré Tom Cruise. C'est deux mondes complètement opposés, il n'y avait aucune raison qu'ils se rencontrent, c'est bizarre. Et Tom Cruise il va se justifier en disant que non, mais Nicolas Sarkozy il est très très connu aux États-Unis, donc je voulais rencontrer ce ministre dont on parle tant. On va jamais connaître la teneur de leur échange. On ne saura pas si Tom Cruise a vu en Nicolas Sarkozy un potentiel candidat à la scientologie. On sait pas. Mais si c'est le cas, ça en dit long sur la manière dont le gars faisait la promotion agressive de la scientologie. Et pendant que tout le monde a l'air plutôt ok avec le fait que Tom Cruise soit scientologue, il y a quand même une personne que ça fait un peu chier. Quand il est sur le tournage de La Guerre des Mondes, réalisé par Steven Spielberg, Tom Cruise, il casse les couilles à tout le plateau avec sa secte. Entre les prises et même en promo, il a que ça à la bouche, il est insupportable. Et ça, Spielberg, il en peut plus. Il en a marre. Et c'est à ce moment-là que les deux hommes vont s'embrouiller, jusqu'à ne plus jamais se parler. Avant qu'un certain Top Gun Maverick ne sorte au cinéma en 2022. Et Mimi Rogers dans tout ça? Ah bah, elle est plus là depuis bien longtemps. Le premier mariage de Tom Cruise, et j'insiste sur premier, se déroule pas hyper bien. Et en plus, en 1989, il va rencontrer Nicole Kidman sur le tournage de Days of Thunder. Tom Cruise divorce aussi vite qu'il s'est marié, pour ensuite se remarier de nouveau très vite avec Nicole Kidman en 1990. Et ensemble, ils vont adopter deux enfants. Ah non, ils perdent pas de temps. Dans les années 90, Nicole Kidman et Tom Cruise, c'est le couple le plus iconique au monde. C'est l'équivalent d'un Tom Holland et Zendaya, Timothée Chalamet et Kylie Jenner. Et si à notre époque, les photos volées de couple, c'est normal, pour le couple Kidman-Cruise, ça l'est pas du tout. Ils sont en permanence harcelés par les paparazzi. Fin des années 90, ça fait 10 ans que le couple star agite Hollywood. On annonce qu'ils vont tourner dans Eyes Wide Shut, le prochain film de Stanley Kubrick, et c'est d'ailleurs ce film qui va précipiter le couple vers une séparation. Bon déjà, le tournage il est prévu à Londres. C'était annoncé pour seulement quelques mois, mais ça va finalement durer un an et demi, poussant la petite famille à déménager. Et sur le set de Eyes Wide Shut, Kubrick en fait baver à tout le monde. Il va multiplier les prises et surtout il est hyper exigeant avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Et en parallèle, Tom Cruise lui s'enfonce de plus en plus dans la scientologie, contre le gré de sa femme. Et Nicole Kidman, elle voit sa famille prendre un tournant qu'elle ne maîtrise plus. Alors 11 ans après un mariage extrêmement médiatisé, le couple Cruise-Kidman se sépare. Sans un bruit pour le coup et dans une communication ultra maîtrisée. À ce moment, personne ne sait ce qu'il se passe dans la scientologie. Alors il y a des rumeurs qui circulent. Mais il y a un truc dont on est sûr, c'est que Tom Cruise est devenu un membre extrêmement haut placé et extrêmement important de la secte. À cette époque, dans les cercles scientologues, on dit que Tom Cruise a atteint le rang Hot 7. Hot, c'est pour Operating Tétan. Et Tétan, ça voudrait dire âme dans le langage des scientologues. Et 7, ce serait l'avant-dernier échelon de la hiérarchie spirituelle de l'organisation. Avant-dernier, mais pas dernier. C'est un peu comme si Tom Cruise, il était ceinture marron de karaté, quoi. Le mec est sincèrement convaincu par le mouvement. Pour lui, c'est clair, il est capable de sauver le monde, comme dans ses films.
I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. Being a Scientologist, when you drive past an accident, it's not like anyone else. As you drive past, you know you have to do something about it because you know you're the only one that can really help.
Attends, mais ça veut dire quoi là, son do something? Est-ce qu'il vient de dire que les scientologues peuvent ressusciter les gens là? Ah, j'ai mal au crâne moi.
These are the times now, people. Okay? These are the times we will all remember. Were you there? What did you do? I think you know that I am there for you and I do care so very, very, very.
Le mouvement compte sur Tom Cruise pour trouver son salut. C'est grâce à lui qu'ils pourront passer à la vitesse supérieure et recruter encore plus d'adeptes. Vous imaginez Tom Cruise, votre égérie internationale. C'est un truc de malade, l'influence du gars. Et ça, la scientologie, ils le savent. Alors ils vont prendre en charge toute sa vie. Depuis son divorce avec Nicole Kidman, Tom Cruise a fréquenté quelques femmes, mais aucune n'était vue comme une bonne cliente pour être la compagne de leur poule aux œufs d'or. Et du coup, bah, il lance des auditions. Ouais, vous avez bien entendu. Comme pour un boulot, en fait, hein, c'est un entretien d'embauche, quoi. Ah non, mais y a rien qui va, je vous l'avais dit. À l'époque, la presse parle de Jennifer Garner, Jessica Alba. Et puis en 2005, il se passe ça.
Something happened to you.
I'm in love.
I thought
have to tell you, no, when you meet someone that's like, you go, huh? It's something that has happened and I feel I want to celebrate it.
We've never seen you behave this way before.
I know.
Have you ever felt this way before?
Cette émission, c'est un tournant dans la carrière publique de Tom Cruise. Quelques semaines avant, il a rencontré l'actrice Katie Holmes. Et il faut croire que c'est de grand amour parce que c'est uniquement de ça dont est venu parler Tom Cruise chez Oprah Winfrey. Hein. Et pourquoi spécifiquement chez Oprah Winfrey? Comment la présenter? Alors, il n'y a aucun équivalent en France à cette présentatrice. Ah, mais tu peux mettre Claire Chazal, Laurent Delahousse, Jean-Luc Reichmann. Il n'y a aucun équivalent à cette présentatrice en France. Si ce n'est le grand Nagui. Bon, en 2005, Oprah Winfrey, elle domine la télé américaine. Et le passage de Tom Cruise en direct va être vu par plus de 9 millions de personnes. Il hurle son amour pour Katie Holmes. Carrément, il va faire peur à tout le monde, à Oprah Winfrey la première. C'est 10 minutes de pétage de câble en direct et ça devient instantanément culte.
I'm in love with Katie Holmes! I'm in love with Katie Holmes! I'm not gay! Go see my new movie! I'm in love with Katie Holmes! I'm not gay!
Mais par contre, pour les financiers du cinéma américain, c'est la goutte de trop, là. Hors de question de continuer à travailler avec ce type, il est complètement chelou. Vous vous rappelez du deal qui a été signé entre Cruise, Wagner et Paramount en 1992? Terminé, fini, nada. Même si le deal leur a fait gagner 2,5 milliards de dollars. Ah non, mais depuis que le gars est devenu monsieur Scientologie, ça a plus aucun intérêt pour Paramount. C'est trop de problèmes. La guerre des mondes et Mission Impossible 3 n'ont pas marché comme c'était attendu, et le studio accuse clairement le comportement de Tom Cruise d'avoir ruiné la promo. Tom Cruise, de son côté, il est sur un autre dos. Il a demandé Katie Holmes en mariage, et elle est déjà enceinte de leur premier enfant, Souris. Alors, petite précision, Souris, ça s'écrit S-U-R-I-E, ils vont pas appeler leur enfant Souris. Enfin, c'est pas cohérent, enfin, personne n'appelle son enfant Souris. Enfin, en l'occurrence, Tom Cruise et Katie Holmes, mais c'est pas une souris. T'as compris. Bon, et là, certains savent déjà de quoi on va parler. Dans la Scientologie, quand une femme accouche, elle ne doit pas émettre un seul mot, ni un seul cri. Parce que selon ce bon vieux Ron Hubbard, si tu n'émets aucun bruit quand tu donnes la vie, eh ben ça préserve l'enfant des cris et des ondes négatives. Ah, mais c'est des barjots, en fait. Et attends, parce que avant l'accouchement, Tom Cruise a même dit qu'il allait manger le placenta de son futur bébé. Je vais jarder là. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi on voit Katie Holmes dans le rôle de Rachel dans le premier Batman de Nolan et pas dans ceux d'après? Alors officiellement, c'est parce que l'actrice a été embauchée sur un autre tournage en parallèle, mais moi je crois que c'est plutôt de la faute de Patrick Bateman, le psychopathe joué par Christian Bale dans American Psycho. Ah non, mais si, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. En 1999, quand il se prépare pour jouer ce rôle, Christian Bale cherche à parfaire son rôle de composition. Il aimerait bien trouver une inspiration, une personne qui a tout d'un psychopathe. Alors il allume la télé.
One time we were flying to Colorado and I was flying this airplane that we had to go on oxygen and I realized that we couldn't stay at that altitude if on oxygen I had to descend because I didn't have enough oxygen. Mm-hmm. So I had a passenger in the back, so we figured out, you know, me and the co-pilot, that if we turned the oxygen off in the back guy that we could make it at this altitude. You know, it wasn't dangerous or anything, you know.
So, now what happened when you turned his oxygen off?
He was very quiet. He felt. But you know, he's the kind of guy you wanted to have him sleep the whole way. You know, it's like just.
But
you know.
but honestly, looking at it from another direction, isn't that attempted manslaughter?
Christian Bale se serait inspiré de cette interview de 1999 chez David Letterman où Tom Cruise raconte qu'il a littéralement coupé l'oxygène de son copilote lors d'un vol en avion. Alors le mec te raconte une histoire quand même foncièrement pas drôle et lui se tape une énorme barre. Ah non, mais c'est un malade. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Bon, finalement la relation avec Katie Holmes, ça va se terminer sur un divorce. C'est pas son premier, c'est pas son dernier. Mais surtout avec 6 ans de mariage et des dégâts irréversibles. Et ça, pour le coup, c'est pas marrant. À cette époque, l'affaire fait du bruit. Mais ça va exploser quand on apprendra en détail tout le processus de recrutement qu'elle a suivi pour être désignée comme femme mariable par Tom Cruise. Et comble de l'horreur, Tom Cruise acceptera par la suite de ne plus jamais voir sa fille Souris, qui prendra d'ailleurs par la suite le nom de sa mère. Mais lui et la Scientologie vont surtout interdire à Katie Holmes d'être aperçue en public avec un autre homme durant les 5 prochaines années. Ah, c'était dans le contrat de mariage, les gars. Bon, et comment on passe à autre chose? Parce que c'est ce que tout le monde a toujours fait avec lui, non? On sait, puis on regarde un de ses nouveaux films, on se prend une claque et on oublie. Mais c'est précisément là que Tom Cruise devient vraiment intéressant. Malgré tout ce qu'on sait et ce qu'on soupçonne, on accepte.
No, you know what? It's something that has helped me incredibly in my life.
Yeah.
I've been a Scientologist for over 30 years,
yeah.
And it's something that, as you know, without it, I wouldn't be where I am.
Yeah.
You know, so it's a beautiful religion. And I'm very proud.
À l'époque où j'enregistre cette vidéo, on dirait que le gars est toujours dans un projet de trouver une femme et de fonder un foyer. Début 2025, le monde découvre qu'il est en couple avec Ana de Armas, 37 ans, alors que lui en a 1962. L'histoire d'amour va durer 9 mois. 9 mois pendant lesquels les informations et les fans d'Anna de Armas vont s'inquiéter plus que jamais. Tout le monde craint qu'il lui arrive la même horreur que Katie Holmes. En octobre 2025, le couple annonce alors sa séparation, et dans la déclaration d'un proche des deux acteurs, il y a un truc qui m'a fait tiquer. Cette séparation a eu lieu car les choses allaient très vite, et Anna commençait à se sentir un peu mal à l'aise avec la rapidité des événements. Est-ce que Tom Cruise n'aurait pas de nouveau tenté de faire ce dont on l'accuse depuis des années? Quand j'ai décidé de faire cette vidéo, je voulais absolument savoir pourquoi tout le monde ferme les yeux sur Tom Cruise. Tout est excessif chez lui, la passion, le contrôle, la foi, que ce soit sur un tournage ou dans sa vie privée. Depuis 30 ans, on apprend des dingueries, on s'étonne, on se demande jusqu'où est-ce qu'il va aller, puis on oublie. Pire, on ferme les yeux. En France, on lui déroule le tapis rouge à chacune de ses apparitions, même si on n'oublie jamais de mentionner qu'il est dans une secte. Mais c'est presque une vanne en fait, c'est jamais du sérieux. Alors bah oui, il est dans son petit délire, Tom, il est comme ça. Parce que tant qu'il risque sa vie pour du spectacle, beaucoup acceptent de regarder ailleurs. On tolère ses dérives, ses agissements, ses déclarations. Je comptais conclure cette vidéo en disant qu'il a toujours été assez boudé des grandes cérémonies du cinéma. Même pire, qu'il a jamais été considéré comme un grand acteur. Il a été nommé 4 fois aux Oscars, mais j'ai jamais eu l'impression que la profession était prête à lui dire « tu es l'un des nôtres ». Puis il y a eu ça.
Tom, it's my honor to present you with this Governor Award. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Novembre 2025, il reçoit un Oscar d'honneur pour récompenser l'ensemble de sa carrière. C'est une reconnaissance tardive, un peu bizarre, et puis surtout, pourquoi maintenant? On dirait qu'on lui a enfin dit « ça y est Tom, tu peux te reposer, c'est plus la peine d'aller chercher la validation du monde entier, c'est terminé ». Comme si après plus de 40 ans de carrière, on venait enfin de prendre dans nos bras cet enfant qui ne voulait qu'une chose, être aimé. Faute de famille, lui s'est tourné vers le public. On a tous grandi avec Tom Cruise, mais je crois que ces prochaines années, c'est lui qui va changer sous nos yeux. D'ici 2028, il est annoncé au casting de 10 films, dont le troisième volet de Top Gun, la suite d'Edge of Tomorrow et un film historique. 10 films, en 2 ans, c'est énorme. Surtout qu'en 2028, Tom Cruise aura 66 ans et qu'il a pas l'air du tout d'avoir envie de lâcher le cinéma. Vous savez pourquoi? Bah moi, je suis persuadé qu'il veut briser ce plafond de verre dans sa carrière. Par folie, par orgueil, par amour du cinéma, il veut imposer au monde sa place de plus grand acteur de tous les temps. Au-delà de marquer son époque, il veut marquer l'histoire. Alors je me pose une question, que fera Tom Cruise quand il arrêtera de courir ? Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de Tom Cruise dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon travail, de la liker. Et j'en profite aussi pour vous dire que le meilleur livre que vous allez pouvoir lire cette année, à savoir Ne jamais trembler de Stephen King, est disponible partout. C'était Louis, merci beaucoup pour votre temps.